Bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2017. Et pour commencer cette année, je reçois aujourd'hui Apolline Louis et Vincent Acheret, qui sont archéologues donc à la direction de l'archéologie, et qui vont nous apporter un éclairage particulier, leur connaissance sur le quartier de Rochèvre, où ils ont fouillé récemment. Bonjour Apolline, bonjour Vincent.
Bonjour Julia.
Bonjour Julia.
Alors, dites-nous exactement où ont eu lieu ces fouilles dans le quartier de Rochèvre et à quel moment ?
Alors, les fouilles se situent à l'angle de l'avenue de Verdun et de l'avenue de la République. Et elles ont eu lieu en deux temps. Une première partie a été fouillée au printemps 2014 et une deuxième partie tout récemment à la fin de l'année 2016 sur une surface à peu près de 4000 m².
C'est donc une belle surface dans un quartier comme ça urbain, non ?
Oui, il y a des surfaces qui sont un petit peu plus importantes. Alors là, on n'est pas tout à fait dans un quartier urbain, on en reparlera tout à l'heure. On est à proximité de la ville.
On est effectivement à proximité de la ville antique, même si là on est dans la ville actuelle résidentielle. Mais effectivement, on va le voir tout à l'heure. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner. Quels sont les premiers résultats du coup de ces fouilles ?
Eh bien, la fouille nous a permis de mettre au jour ce que l'on peut appeler un établissement rural qui a été construit dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ et qui est détruit au 3e siècle. Alors les vestiges sur ce site-là sont très très détruits. Et il ne reste plus que vraiment la base des murs au niveau des fondations et tous les sols ont malheureusement disparu et les objets qui allaient avec aussi.
Donc pour vous, c'est peut-être un travail un peu plus compliqué ou ça ne change rien ? Vous arrivez à établir quand même des plans ou des données exploitables ?
Alors les plans nous sont donnés par les vestiges des constructions, donc ça c'est pas trop compliqué à acquérir, mais par contre l'interprétation des espaces est plus compliquée puisqu'elle se fait souvent à la lumière des objets que l'on peut retrouver sur les sites.
Néanmoins, ce qu'on disait là juste au début de l'émission, c'est qu'on est à la limite de la ville antique, on est où exactement par rapport à Autricum ?
Alors on est tout proche de la ville antique. À vol d'oiseau, on est à peu près à 400 mètres du grand fossé qui délimite l'emprise de la ville antique d'Autricum. Donc c'est vraiment tout proche. On est aussi à proximité d'une voie antique qui se situe sous l'actuelle rue de Fresnay, et c'est la voie qui amenait de Chartres à Lisieux, qui s'appelait Novio Magus dans l'Antiquité.
Donc là, on est aux abords de la ville antique, dans un espace, du coup, on pourrait dire, vous avez dit rural, donc on est vraiment peut-être à la campagne, vous nous en direz plus. Quel type d'habitat et d'activité, donc, retrouvait-on dans ces campagnes gallo-romaines ?
Donc, les abords proches de la ville antique sont pas très bien connus parce qu'ils sont sous la ville de Chartres actuelle. Par contre, dans les campagnes gallo-romaines, les études qui ont été menées sur les territoires des régions voisines ont permis de reconnaître trois catégories d'habitats de manière très générale. Donc, il y a des tout petits bâtiments que l'on retrouve au milieu des champs et qui sont probablement des annexes agricoles ou alors un habitat, mais de très, très pauvre. Il y a ensuite une grande quantité d'établissements de taille moyenne qui sont enclos par des fossés et qui sont très très hétérogènes. On peut retrouver des bâtiments de taille assez variable, des nombres assez variables aussi. C'est dans cette catégorie probablement que se placent les vestiges de Rochèvre. Ce sont des établissements qui peuvent avoir des aménagements de qualité ou être beaucoup plus pauvre. Et enfin, il y a une troisième catégorie d'établissements que l'on connaît assez bien, ce sont les villas gallo-romaines. Et là, on se place dans un autre type de vestiges. Donc ce sont des habitats avec des surfaces très importantes, des parties résidentielles qui sont luxueuses et ostentatoires, et puis une partie réservée à l'exploitation agricole qui s'organise autour de vastes cours. Et donc ces villas peuvent occuper plusieurs hectares de superficie. Une dernière chose peut-être, il faut souligner que tous ces habitats ruraux n'ont pas forcément de lien de dépendance entre eux. Il peut y avoir des exploitants indépendants au sein de petites fermes.
Il n'y aurait pas la villa qui domine les autres petites fermes. Tout le monde,
pas forcément. Voilà. Ça peut se produire, mais c'est pas toujours le cas.
Donc là, on a cet exemple de Rechef, donc un établissement rural un peu de taille intermédiaire. Et est-ce qu'on a d'autres exemples sur Chartres de propriétés ou de domaines de ce type ?
Alors, il y a deux fermes qui ont été fouillées il y a quelques années aux abords de la ville. On est un petit peu plus loin de la ville antique, on est à peu près à 3-4 kilomètres. Au sud-est de la ville, sur les sites de Gélinville. Et à cet endroit-là ont été mis au jour deux fermes gallo-romaines, une assez grande, puisqu'elle occupe près de 3 hectares, avec une partie habitation et puis une partie agricole, avec des bâtiments liés aux activités agricoles et aux activités pastorales aussi. Et une autre petite ferme qui est vraiment toute proche, à peu près 500 mètres de la première, qui là est plus modeste et qui est peut-être dépendante de fermes un petit peu plus importantes qui se situaient à proximité.
Et comment découvre-t-on justement ces fermes aujourd'hui ?
Alors, plusieurs facteurs. Il y a la prospection aérienne qui s'est développée dans les régions comme les nôtres en raison de la platitude du relief et qui permet de découvrir les plans de ces bâtiments à travers la végétation. Et puis, il y a aussi le développement de l'archéologie préventive depuis ces dernières années qui permet de toucher des sites que l'on n'aurait pas pu détecter autrement. Et donc, ça permet aussi d'élargir le regard que l'on porte sur les campagnes gallo-romaines et d'atteindre des établissements que l'on n'aurait pas détectés autrement.
Parfait, merci Apolline. On va du coup rentrer un peu plus dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire cet établissement rural découvert dans le quartier de Rechèvre. On va tout d'abord, excusez-moi l'expression, mais faire le tour du propriétaire de manière un peu plus sommaire. Et on revisitera en deuxième partie d'émission, un peu plus en détail, certaines pièces ou parties de cette propriété.
When I think of her, it's with the warmest thoughts. I took so much from her, I really learned a lot. How to dust off my heart, how to make it shine, how to take a field of dandelions, make dandelion wine. Such sweet and simple days, though bitter tasted the wine. We drank it anyway, for love had made it fine. When the world was young, when the road was bright, and the morning poured its golden light like dandelion wine. Forward deceit and lust, lost the trust. Forgive me, girl. Now when I sing to you, it's with a heavy heart. I took a love that was true and tore it all apart. How can I let go of all those times with this memory of a hand in mine and dandelion wine?
Nous nous retrouvons donc dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Nous sommes aujourd'hui avec Apolline Louis et Vincent Acheret, archéologues au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, pour évoquer ensemble des découvertes récentes dans les quartiers de Rochèvre. Alors, c'est un peu comme au cinéma. Apolline, Vincent, vous allez un peu nous présenter le décor de cet établissement rural.
Eh bien, tout d'abord, cet établissement est délimité par des fossés. Qui détermine une surface intérieure à l'intérieur de laquelle il se situe. Cette surface, elle est à peu près de 4000 m2, connue à ce jour. Ces fossés qui entourent cet établissement sont à peu près profonds d'un mètre et larges à peu près d'autant, et en constituent la limite. Alors probablement, y avait-il des palissades ou une haie végétale, mais on n'en a pas retrouvé trace. Et cet habitat est organisé en deux parties. Du côté lycée Jean de Beauce, on a les bâtiments liés à l'habitation. Et de l'autre côté, côté avenue de la République, eh bien, on a l'espace extérieur, le jardin ou la pars rustica, comme on dit dans l'Antiquité.
Alors on va visiter la partie, on va dire, habitée avec Vincent. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu vos découvertes?
Alors, il y a un premier bâtiment qui est construit à la fin du 1er siècle. C'est un petit bâtiment composé de 4 pièces, dont 2 sont chauffées par un système d'hypocauste, donc un système de chauffage par le sol. Ce petit bâtiment d'environ 40 mètres carrés est plutôt assimilé à des bains. D'accord. C'est pas un lieu d'habitation, c'est plutôt des bains, en fait.
Qu'on verra un peu plus tard dans le détail. Et donc là, on est sur un ensemble qui donc semble un peu éloigné d'un habitat principal. Pourquoi ?
Alors effectivement, on n'a pas retrouvé l'habitat principal. On a retrouvé une cave qui se situe environ 5 mètres un peu plus au nord. Donc c'était une cave qui était certainement là pour stocker les denrées. Et si on n'a pas retrouvé l'habitat, c'est que souvent les systèmes de bains, et ceci dû au chauffage par le bois, étaient éloignés de l'habitat pour éviter tout risque d'incendie.
Et là, d'après les premiers plans que vous avez pu tracer, l'ensemble des bâtiments découverts, ça fait combien de mètres carrés? Vous avez une idée un petit peu de la taille totale de cette habitation, de cette résidence, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler?
Pour la partie bain, on est sur environ 40 mètres carrés. C'est un tout petit bain. Ce ne sont pas des bains qui appartiennent à une ville.
Combien de temps cet ensemble de bâtiments, cette habitation, va être utilisée?
Alors, on a vu deux phases. Il y a une première phase où un premier bâtiment avec les bains va durer entre la fin du 1er et le milieu du 2e siècle. Ce bâtiment va être détruit. En fait, il va être reconstruit un peu plus au nord. À partir du milieu du 2e jusqu'au 3e siècle.
Et Vincent, sait-on pourquoi ou comment ce site a été réaménagé?
Alors le site est réaménagé un peu différemment. On a d'abord un gros bâtiment de 360 mètres carrés qui va s'implanter sur les bains du 1er siècle. Ce bâtiment peut être une cour ou un bâtiment avec des espacements internes, mais on n'a pas retrouvé les traces. Et des bains, et donc les bains qui vont être construits, sont reconstruits au nord-ouest de ce grand bâtiment.
Et effectivement, comme le disait Apolline tout à l'heure, c'est l'absence peut-être d'objets qui vous permet de déterminer plus précisément la destination d'un bâtiment.
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, en l'absence d'éléments mobiliers, c'est assez compliqué de déterminer la fonction de ce bâtiment. Ouais.
Alors, ces bains que vous retrouvez dans ces deux périodes différentes, sont-ils significatifs de nouvelles pratiques à la romaine, entre guillemets ?
Au premier siècle, les bains sont déjà très répandus dans le monde romain, notamment à la ville avec les bains privés et les bains publics. La présence de bains en dehors de la ville montre surtout la présence d'un habitat assez luxueux.
Donc on peut présumer ici de riches propriétaires ou en tout cas un habitat plus cossu, entre guillemets.
Voilà, on pourrait presque parler de classe moyenne supérieure.
Et outre ces pièces d'habitat, Apolline, tout à l'heure, vous aviez évoqué des parties extérieures.
Oui, alors tout le reste de l'enclos est occupé par un espace extérieur. Alors comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble du site est très très détruit et donc on a retrouvé extrêmement peu d'éléments qui nous permettaient d'interpréter cet espace extérieur. Il y a des trous de poteaux qui nous sont parvenus, mais malheureusement sans éléments pour les dater. Et donc ils pourraient appartenir tout à fait à des bâtiments annexes liés à une exploitation agricole ou autre chose, mais ils pourraient aussi appartenir à n'importe quelle période qui est représentée sur le site. Donc on ne peut rien en conclure. Ce qui ressort de manière le plus lisible pour la période antique, ce sont des fosses de plantation de vignes.
Et comment, alors là, excusez-moi, moi là, qui suis un peu candide, hein, comment arrivez-vous à définir que ce sont des vignes qui ont été plantées là à partir d'un simple trou, entre guillemets ?
Alors effectivement, il s'agit vraiment d'un simple trou, parce que sur le site, les conditions d'enfouissement n'ont pas permis de conserver ni pollen, ni de retrouver des graines. Donc c'est vraiment à partir de la forme du creusement que l'on peut établir des comparaisons avec ce qui a été trouvé sur d'autres sites un petit peu plus riches en éléments. Et ces creusements ressemblent à des fosses qui sont assez longues, ça peut aller jusqu'à 2 mètres de longueur. Elles font une quarantaine de centimètres de large et autant de profondeur. Et leur fond est en cuvette avec des petits trous de piquets et puis des empreintes de racines. Et sur d'autres sites, mieux connus, on a retrouvé associés à ces fosses, donc de forme très caractéristique, des pépins de raisin et des pollens de vigne. Donc il s'agit sans doute ici de fosses de plantation de vigne.
Et du coup, à partir là de ces éléments, vous savez si cette partie était plutôt un jardin d'agrément ou vraiment un espace cultivé ?
Alors ces fosses de plantation de vignes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7, et elles occupent un tout petit espace d'une vingtaine, je pense, de mètres carrés. Donc ici, il ne s'agit absolument pas d'une plantation viticole de vignes, on est plutôt soit dans quelques plants de vignes qui sont destinés à la production de raisins de table ou à un petit peu de production de vin, mais absolument pas dans un espace lié à vocation économique. Donc il s'agit peut-être aussi d'un jardin d'agrément, tout simplement.
Donc on aurait une belle résidence avec un jardin ou une cour qui aurait eu aussi des fonctions utilitaires, et ça on va le voir un peu plus en détail après la pause musicale. À tout de suite. I've been waiting on the fall line, living evil take me on. I'll be standing with my dying bed, if you care to come along. Racing with the rising tide to my father's door. Racing with the rising tide to my father's door. I've been lying in the bright light, see my shadow from below. Never wanted from another man, never wanted from my own. Drowning in the rising tide at my father's door. Drowning in the rising tide at my father's door. On the wall, from the banks of the far side, I see the lights come ashore. Racing from the rising tide to my father's door.
racing from the rising tide to my father's door. Racing with the rising tide to my father's door.
Dans votre émission Histoire et Mémoire consacrée aujourd'hui à la découverte de vestiges dans le quartier de Rochèvre. Vincent, vous êtes archéologue, vous avez plus particulièrement étudié la partie habitée et dans la première partie de l'émission, vous avez décrit donc la disposition des pièces, mais est-ce que vous avez des indices sur l'architecture, voire la décoration de ces bâtiments ?
Alors les pièces qui composent ces bains sont formées de murs assez larges, d'environ 70 cm d'épaisseur. Ils sont composés de silex pris dans un mortier blanc. L'élévation, on ne la connaît pas, on ne sait pas si le mur s'élevait sur 2 mètres ou si à partir d'un mètre on avait des murs en bauge. Ce qu'on sait, c'est que le toit était lui couvert de tuiles.
Parce que vous avez retrouvé assez de fragments.
Parce qu'on a retrouvé un certain nombre de tuiles un peu partout disséminées sur le site.
Et au niveau des décors, vous avez fait des découvertes particulières ?
On a quelques indices pour le décor. On sait que les murs étaient décorés d'enduit peint de différentes couleurs, rouge, bleu, blanc ou vert, et qui formaient souvent des cadres. Et on a aussi retrouvé des plaques de marbre qui devaient être apposées contre le mur.
D'accord, donc des plaquages colorés sur les murs ou des peintures, ce qui confirme du coup votre hypothèse, un habitat plutôt riche.
Oui, tout à fait, parce que faire venir du marbre, ça coûte un peu d'argent, donc tout le monde ne peut pas le faire.
Et d'où viendrait-il ce marbre alors ?
Alors, on ne l'a pas encore étudié, mais les différents marbres peuvent venir soit des Pyrénées, soit de Turquie, soit d'Italie, enfin d'assez loin quand même.
Et ces bains, justement, ils servent uniquement à l'hygiène ou ils ont d'autres fonctions ?
Bon, ils servent à l'hygiène, mais ils servent aussi pour le plaisir personnel.
C'est un peu comme dans les films ou dans les images qu'on a, nous, de la Rome antique, de lieux un peu de plaisance, d'aisance.
Moi, tout à fait, ou comme encore aujourd'hui dans les pays de l'Est, où on a encore les bains qui servent de lieux de rendez-vous, de lieux de détente.
Et Vincent, est-ce que vous pouvez nous rappeler le fonctionnement de ces bains gallo-romains ?
Alors, ils fonctionnent avec un système de foyer. On a une pièce dédiée à un foyer, donc on a quelqu'un qui va être dédié à alimenter ce foyer. Et la chaleur va être transmise dans l'entresol des pièces. Et elle va monter soit par le sol, soit par les murs pour chauffer les pièces supérieures, en fait. Et ces pièces supérieures, on peut y retrouver soit des baignoires avec de l'eau et l'eau sera donc chaude, soit elles seront des pièces qui seront là juste pour chauffer le corps comme des saunas en fait.
Merci pour cet éclaircissement. Et que retenir d'autre de cette résidence là un peu en marge de la ville ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est placée sur un site intéressant, elle est en hauteur. De là, on domine la ville antique d'Autricum. On a une belle vue certainement sur les monuments antiques. On est près de la voie, comme le disait Pauline, on est près de la voie entre Chartres et Lisieux. Donc c'est un site très, très agréable.
Apolline, tout à l'heure, vous évoquiez dans le jardin ou dans la cour des pieds de vigne.
Oui, je vous ai dit que c'était pas de la vigne qui était liée à la consommation du fait du peu de pieds qui ont été retrouvés. Donc ici, pas de production de vin commercial. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la forme de ces fosses allongées vient d'une technique qui était déjà utilisée dans l'Antiquité, qui s'appelle le provignage. C'est-à-dire que pour multiplier les pieds de vigne, eh bien, on va courber une branche de la vigne, on va l'enterrer, et cette branche va marcoter et former un nouveau plan. Et c'est ce que le propriétaire de cet endroit a probablement fait, vu ce que l'on a retrouvé en fouille.
D'accord. Et là, peut-être un usage du coup plutôt domestique. Et la consommation de vin, elle, est aussi connue à cette époque. Est-ce qu'on a des traces à Chartres ?
Ah oui, bien sûr, on consommait du vin à Chartres. On sait d'ailleurs que des amphores ont été produites localement à Chartres. Certaines pouvaient contenir jusqu'à 20 litres de capacité. Et on les retrouve en grand nombre dans la ville et un petit peu au nord du territoire carnut. Les spécialistes qui ont étudié ces amphores ont suggéré qu'elles pouvaient contenir du vin qui était produit localement. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé trace autour de Chartres de plantations viticoles qui auraient pu fournir le vin embouteillé dans ces amphores. Donc la deuxième hypothèse, qui est jusqu'à présent la plus probable, c'est que ces amphores étaient produites localement, mais servaient à reconditionner du vin importé d'ailleurs.
D'accord. Néanmoins, les pieds de vigne de Rochèvre sont quand même les premiers témoins, c'est ça, d'une petite exploitation, en tout cas, de pieds de vigne.
Alors, c'est la première mise en évidence archéologique d'une culture de la vigne à Chartres. Mais il ne s'agit pas donc d'un vignoble. Par contre, dans les régions voisines, dans le bassin parisien, à l'époque antique, par exemple, des plantations de vignes sont bien attestées. Il y a des plantations de vignes, d'ailleurs, un petit peu partout en Gaule, à la période antique. Des exemples un petit peu proches, par exemple à Beaune-la-Rolande ou du côté de Pithiviers, on sait que dans les quartiers d'habitation de Beaune-la-Rolande, on a retrouvé dans les jardins des clos de vignes où là on a plusieurs rangées de vignes et qui devaient probablement fournir un petit peu de vin pour les habitants. Et puis dans les grandes régions qui sont encore des régions viticoles actuellement, en Bourgogne par exemple, là on a des hectares et des hectares de plantations de vignes antiques.
D'accord. Par contre, tout à l'heure, vous nous disiez que le site a été abandonné ou détruit vers le 3e siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Eh bien, au 3e siècle, on sait que les bâtiments ne fonctionnent plus puisqu'ils sont détruits. On retrouve des fosses avec des fragments de marbre, des tuiles cassées, etc., qui témoignent que l'habitat n'est plus occupé et il est récupéré. On récupère les matériaux rares comme le marbre, par exemple, pour les utiliser ailleurs. Après, que se passe-t-il ? C'est difficile de le savoir. Jusqu'à quand est-ce que ces bâtiments-là ont été visibles dans le paysage ? Ça reste une question à laquelle on ne peut pas répondre. Il y a un gros hiatus chronologique après sur lequel on ne peut rien dire. Et puis les informations nous reviennent à partir du 12e siècle. Cette fois-ci, pas sur le plan archéologique parce qu'on n'a rien retrouvé, mais ce sont les textes qui nous disent que à cette période-là,
les données historiques.
Voilà, à partir du 12e siècle jusque probablement entre deux guerres, le quartier de Rochèvre était planté de vignes.
D'accord. Et puis après, nous, on retrouve le quartier dans les années 50 avec le projet Rochèvre 200, ses maisons, ses jardins et son lycée qui est toujours en activité et aujourd'hui donc cette rénovation du quartier. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci Vincent et merci à Pauline de votre éclairage sur ce quartier de Rochèvre dont on découvre donc le passé antique. Il y a un article hein, également dans votre ville du mois de janvier à découvrir en complément. Je rappelle que toutes les émissions Histoire et Mémoire consacrées à l'histoire de Chartres sont téléchargeables sur le site radiograndciel.fr. Nous, on se retrouve le mois prochain avec Bruno Bazin, qui est le responsable des fouilles du site archéologique de Saint-Martin-en-Val, pour faire un point sur les nouvelles données. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une conférence à l'Apostrophe le vendredi 3 février à 17h30. Voilà. Donc, à très bientôt dans votre émission Histoire et mémoire. Three stars, the alien face.
took its form. Then to Lebanon, oh God, the flashing at night, the sirens grow and grow.